Le secret de Guccio.
Cressait, dans la lumière du printemps, avec ses arbres aux feuilles transparentes et le frémissement argenté de la mauldre, était restée pour Guccio une vision heureuse. Mais quand, ce matin d'octobre, le jeune Siennois, qui se retournait sans cesse pour s'assurer qu'il n'avait pas d'archer à ses trousses, arriva sur les hauteurs de Cressait, il se demanda un instant s'il ne s'était pas trompé. Il semblait que l'automne eût rapetissé le manoir. Les tourelles étaient-elles donc si basses, se disait Guccio, et suffit-il d'une demi-année pour vous changer à ce point la mémoire? La cour était devenue une mare boueuse où son cheval enfonçait jusqu'au pâturon. Au moins, pensa Guccio, il y a peu de chances qu'on me vienne trouver ici. Il jeta les rênes à son valet. Qu'on bouchonne les chevaux et qu'on leur donne à manger. La porte du manoir s'ouvrit et Marie de Cressait apparut. L'émotion la força de s'appuyer au chambranle. « Comme elle est belle !» pensa Guccio. « Et elle n'a point cessé de m'aimer. » Alors, les lézardes des murs s'effacèrent et les tours du manoir reprirent pour Guccio les proportions du souvenir. Mais déjà Marie criait vers l'intérieur de la maison. « Mère, c'est messire Guccio qui est revenu !» Dame Eliabel fit grande fête au jeune homme, le baisa aux joues et le serra contre sa forte poitrine. L'image de Guccio avait souvent peuplé ses nuits. Elle le prit par les mains, le fit asseoir, commanda qu'on lui apportât du cidre et des pâtés. Guccio accepta de bon cœur cet accueil, et il expliqua sa venue de la façon qu'il avait méditée. Il arrivait à Naufle pour remettre en ordre le comptoir qui souffrait d'une mauvaise gestion. Les commis ne faisaient pas rentrer à temps les créances. Aussitôt, Dame Eliabel s'inquiéta. « Vous nous aviez donné toute une année, dit-elle. L'hiver vient après une bien chétive récolte et nous n'avons pas encore. » Guccio resta dans la vague. Les châtelains de Cressait étaient ses amis. Ils ne permettaient pas qu'on les inquiétât, mais ils se rappelaient leur invitation à séjourner. Dame Eliabel s'en réjouit. Nulle part au bourg, assura-t-elle, ils ne trouveraient plus d'aise ni meilleure compagnie. Guccio réclama son porte-manteau, qui chargeait le cheval de son valet.
« J'ai, dit-il, quelques étoffes qui vous plairont, j'espère. Quant à Pierre et Jean, j'ai pour eux deux faucons bien dressés qui leur feront faire meilleure chasse, s'il est possible. »
Les étoffes, les dentelles, les faucons éblouirent la maison et furent reçus avec des cris de gratitude. Pierre et Jean, leurs vêtements toujours imprégnés d'une forte odeur de terre, de cheval et de gibier, posèrent à Guccio sans question. Ce compagnon miraculeusement surgit, alors qu'il se préparait aux longues ennuis des mauvais mois, leur parut encore plus digne d'affection qu'à son premier passage. On eût dit qu'ils se connaissaient depuis toujours.
« Et notre ami le prévôt Portefruit, que devient-il » demanda Guccio.
« Il continue de piller autant qu'il peut, mais plus chez nous, grâce à Dieu et grâce à vous. »
Marie glissait dans la pièce, ployant le buste devant le feu qu'elle attisait, ou disposant de la paille fraîche sur le bas-flanc à courtine où dormaient ses frères. Elle ne parlait pas, mais ne cessait de regarder Guccio. Celui-ci, au premier instant qu'il fut seul avec elle, la prit doucement par les coudes et la tira vers lui.
« N'y a-t-il rien dans mes yeux pour vous rappeler le bonheur ?»
dit-il, empruntant sa phrase à un récit de chevalier qu'il avait lu récemment.
« Oh, si, messire !» répondit Marie d'une voix tremblante. « Je n'ai point cessé de vous voir ici, aussi loin que vous fussiez. Je n'ai rien oublié, ni rien défait. »
Il se chercha une excuse à n'être point revenu de 6 mois, et à n'avoir donné aucun message. Mais à sa surprise, Marie, loin de lui en faire reproche, le remercia d'un retour plus prompt qu'elle ne le prévoyait.
« Vous aviez dit que vous reviendriez au bout de l'an, pour les intérêts, dit-elle. Je ne vous espérais point avant, mais vous ne seriez point venu que je vous aurais attendu toute ma vie. »
Guccio avait emporté de Cressait le léger regret d'une aventure inachevée, à laquelle, pour être bien franc, il avait peu songé pendant tous ces mois. Or, il retrouvait un amour ébloui, qui avait grandi pareil à une plante au long du printemps et de l'été. « Que j'ai de chance, » pensait-il, « elle pourrait m'avoir oublié, s'être mariée. » Les hommes de nature infidèle, aussi infatués qu'ils paraissent, sont souvent assez modestes en amour, parce qu'ils imaginent les autres d'après eux-mêmes. Guccio s'émerveillait d'avoir inspiré, l'entretenant si peu, un sentiment aussi puissant et aussi rare.
« Moi non plus, Marie, je n'ai cessé de vous voir, et rien ne m'a délié de vous, »
dit-il avec toute la chaleur que réclamait un si gros mensonge. Ils se tenaient l'un devant l'autre, également émus, également embarrassés de leurs paroles et de leurs gestes.
« Marie, » reprit Guccio, « je ne suis point venu ici pour le comptoir, ni pour aucune créance. Mais à vous, Je ne veux ni ne puis rien cacher. Ce serait offenser l'amour qui nous lie. Le secret que je vais vous confier engage la vie de beaucoup et la mienne propre. Mon oncle et des amis puissants m'ont chargé de dissimuler en lieu sûr des pièces écrites qui importent au royaume et à leur propre salut. À cette heure, des archers sont sûrement à ma recherche. »
Cédant à son penchant, il recommençait à gonfler un peu son personnage.
« J'avais 20 places où chercher un refuge, mais c'est vers vous, Marie, que je suis venu. Ma vie dépend de votre silence. »
« C'est moi, dit Marie, qui dépend de vous, monseigneur. Je n'ai foi qu'en Dieu et en celui qui le premier m'a tenu dans ses bras. Ma vie est votre vie. Votre secret est le mien. Je scellerai ce que vous voudrez sceller, je tairai ce que vous voudrez taire, et le secret mourra avec moi. »